nous sommes venus rendre un culte à Dieu. Et nous sommes venus donner quelque chose à Dieu. Alors, pour pouvoir donner quelque chose à Dieu, il faut déjà en amont que Dieu nous ait donné quelque chose. Parce que les disciples ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus? Ils l'ont dit à Jésus. Et ils ont dit à Jésus, mais en gros, ils voulaient dire à Jésus, mais on n'a personne d'autre. Et les paroles que tu dis, ce sont des paroles qui produisent en nous quelque chose, qui nourrit notre âme, qui nous fait du bien. Eh bien, c'est la même chose. Ce que nous pouvons offrir à Dieu cet après-midi, c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et l'une des choses, parmi tant d'autres, que Dieu a mis dans notre cœur, c'est la première chose, quand nous lui avons donné notre vie, il a mis de l'amour dans notre cœur. Il a mis son amour dans notre cœur. Parce que, avec l'amour humain, nous sommes incapables d'aimer Dieu, nous sommes incapables de l'aimer, mais aussi de l'aimer de manière parfaite. Mais avec son amour qu'il a déversé dans notre cœur, là, avec cet amour, nous pouvons aimer Dieu. Et je voudrais que vous ne puissiez pas hésiter ni sous-estimer l'amour de Dieu en vous, mais vous devez dire à Dieu, « Père, je t'aime ». Et certains chrétiens n'osent pas dire à Dieu qu'ils l'aiment. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes se chargent, se culpabilisent, disent « Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite », mais tu ne le seras jamais tant que tu seras dans ce corps. Mais quand tu vas réaliser, quand tu vas le comprendre, qu'il n'y a rien de bon en toi, et tout ce qu'il y a de bon, c'est Dieu qui l'a mis, alors tu ne feras, avec l'aide du Saint-Esprit, aller puiser dans ce que Dieu lui-même a mis pour pouvoir lui redonner en retour. Est-ce que vous comprenez ? Alors, dites à Dieu, parce que quand vous exprimez l'amour, quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, vous valorisez cette personne. Quand vous dites à un enfant, à un ami ou je ne sais qui, « Je t'aime », vous valorisez et vous donnez à cette personne une confiance. Vous décuplez ses forces. Vous lui donnez de la valeur, de l'importance. Eh bien, Dieu, notre Père, nous devons lui dire que nous l'aimons. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, je voudrais, s'il vous plaît, que la journée ne se termine pas sans que vous ayez dit à Dieu, « Père, mon Père qui est aux cieux, s'il est vraiment, véritablement votre Père. » Parce qu'il y a des personnes qui appellent Dieu « Père », mais Dieu dit, « Je ne te connais pas, tu n'es pas ma fille ni mon fils. » Ils ne le savent pas, ils sont dans l'ignorance, mais pour être fils de Dieu, fille de Dieu, il faut avoir en amont l'Esprit de Dieu. Il faut l'avoir reçu en soi. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir en amont, en préambule, reçu Jésus dans notre cœur. Et si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, dans notre cœur, on n'est pas enfant de Dieu. On est chrétien, catholique, protestant, évangélique, ou je ne sais quoi comme hic après, mais on n'est pas chrétien. On n'est pas enfant de Dieu, merci mes frères. Mais il y a que quand on a Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qui n'est pas bon. Dieu ne se mélange pas. La religion, on mélange la religion. Il y en a qui sont bouddhistes, en même temps ils sont en trafic avec le monde des ténèbres. Ils mélangent tout dans leur tête. Mais Dieu ne se mélange pas avec ça. Un homme et une femme qui dit être chrétien, enfant de Dieu, parce que tout le monde est chrétien aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien. C'est un titre que les gens se donnent à eux-mêmes. Mais l'enfant de Dieu, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, au nom de qui ? De Jésus-Christ, bien sûr. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tant que Jésus n'est pas venu habiter dans ton cœur, tu es un homme comme un autre, tu es une femme comme une autre, tu es un religieux, Tu peux être, peut-être tu peux avoir une vie plus sanctifiée que moi, mais ça n'empêche que tu es un religieux, une religieuse. Mais moi, je vis de la grâce de Dieu. Je vis de la miséricorde de Dieu. Je vis de la bonté de Dieu. Je vis du secours de Dieu. Je ne m'appuie pas sur moi-même, mais je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur sa parole. Je m'appuie sur Jésus. Et je ne revendiquerai jamais que je suis chrétien. Je dis que je suis enfant de Dieu. C'est ce que l'Écriture dit. Enfant de Dieu. Alors j'espère que cet après-midi, en étant assis dans cette salle, vous n'avez pas que le nom de manière superficielle, mais vous avez celui qui vous donne d'être ce que vous pouvez être, enfant de Dieu. Vous l'avez dans votre cœur. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est d'ailleurs le seul homme que, quand Satan est venu le trouver, Satan est venu, la première chose qu'il a cherché à emmener Jésus sur son terrain, de la séduction, de la convoitise et de l'orgueil, il a cherché à l'emmener, Jésus, la Bible nous dit qu'il eut faim. Après 40 jours de jeûne, Jésus n'avait pas la tête qui tournait, il ne voyait pas les étoiles, parce que la Bible nous dit, quand il a été baptisé par Jean, le Saint-Esprit. Vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous entamez, j'entends des jeunes d'Esther, des jeunes de Daniel, des jeunes ceci, des jeunes cela, faites très attention à ce que vous faites. Par contre, quand c'est le Saint-Esprit qui dispose votre cœur, et ce même jour, votre femme ou un ami fait un repas auquel vous êtes dans le salon, vous sentez l'odeur qui vous rentre par le nez, vous n'allez pas bouger pour aller manger. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a disposé votre cœur de rester ce jour-là sans manger. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert afin d'être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. Alors, je reviens sur mes frères et mes sœurs qui quelquefois disent « J'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai fait le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel. » Jeûne tout simplement. Ne donne pas de titre à tes jeûnes. Jeûne simplement. Et quand le jeûne que tu fais est poussé par l'Esprit de Dieu, ben je peux te dire, tu peux jeûner 10 jours, même peut-être 20 jours, et peut-être 30 jours, mais personne ne le sait ça. Tu n'arrives pas en disant « Ah, je jeûne en ce moment, que c'est dur !» Tu n'arrives pas comme ça. Tu arrives, tu mets ta plus belle robe, ton plus beau costume, le plus beau parfum qui sent bon, à des kilomètres tu sens bon. Personne ne va essayer d'imaginer ce monsieur ou ce frère en train de jeûner. Il dit « Mais non, il est bien, il est frais comme un gardon, c'est parfumé, tout va bien chez lui. » Il n'est pas en jeûne. Et pourtant tu l'y es depuis 10 jours, ou même peut-être depuis 20 jours. Mais si pendant ce jeûne, le Saint-Esprit qui te pousse à jeûner, je peux te dire, tu n'as pas la tête qui tourne, tu n'as pas d'hallucination, tu n'as pas des manifestations bizarres. Par contre, quand c'est toi qui pars sur ce terrain-là, de toi-même, tu commences, tu vois, ton ventre commence à crier famine, et ça devient très dur pour toi. Et au bout de 10 jours, tu commences à avoir des hallucinations. Des présences ou des... Dis, mais il faut arrêter tout de suite. Parce que là-haut, il y a quelque chose qui a dévissé. Non, mais vous rigolez, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est très sérieux. Sachez bien qu'il y a des personnes qui sont parties dans des jeûnes et qui sont tombées dans la dépression. Et qui ont basculé en psychiatrie. Parce que ce n'était pas Dieu. Et pourtant, c'était des véritables enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas été attentifs à l'Esprit de Dieu. Alors, soyez sages. On a l'habitude de dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sais, le Saint-Esprit sait pourquoi, le Seigneur Jésus sait pourquoi, que je parle ainsi. Il connaît les personnes qui sont entrées ici, qui sont en jeûne depuis un moment. Je ne les connais pas, mais qui ont décidé en disant, je vais jeûner, je vais faire ça parce que j'ai besoin, j'attends quelque chose. Ils ont décidé de le faire par eux-mêmes, mais ce n'est pas Dieu qui les a poussés à faire. Et si Dieu permet que je leur parle ainsi, c'est pour qu'ils freinent, parce que Dieu connaît dans quelque temps ce qui peut se passer là-dedans. Ils peuvent disjoncter. Je referme la parenthèse. On s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris, mes frères? Dites, vous êtes avec moi, parce qu'ils me regardent avec des vues. C'est la vérité. Mais bien aimé, la Bible nous parle, le Seigneur nous parle, de la miséricorde. Dieu, quand je fais la lecture dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, vous le prenez avec moi ? On y va. Matthieu chapitre 5, Jésus nous parle, il est assis, il est monté sur une montagne, il s'est assis, et les disciples sont venus à lui. Alors Matthieu chapitre 5, c'est bien ça mes frères, hein ? Alors, à partir du verset 1er, mais on s'arrêtera à partir du verset 7, c'est ce qui nous intéresse. Et voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Et pendant que je vous parle, je suis en train de chercher mes fiches. Mais même si j'ai pas de fiches, c'est pas un problème, vous verrez. Alors, il dit ceci. Voyant la foule, verset 1er du chapitre 5 de Matthieu, Jésus monta sur la montagne. Alors, pour certainement, quand on se retire à la montagne, il y a moins de monde à la montagne qu'à la plage. Vous êtes d'accord avec moi? En été, vous allez au bord de la mer, il y a du monde. À la montagne, vous y allez, il y a moins de monde. Beaucoup moins de monde. Encore, si vous partez dans les déserts, il y a encore moins de monde là-bas. Mais Jésus monta sur cette montagne, c'est-à-dire il se retira de la foule, et après qu'il se fut assis, en position de repos comme vous, assis confortablement, ses disciples, les 12, s'approchèrent de lui. Jésus monta sur cette montagne, il s'assoit, deuxièmement, et troisièmement, il y a une attraction qui va se faire, ses disciples, voyez bien, ses disciples, pas des étrangers. Et cet après-midi, nous sommes disciples de Jésus. Et le Saint-Esprit nous a convoqués ici. Nous ne sommes pas sur une montagne, mais spirituellement, la Bible nous dit que Dieu, en lui, Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça ? Sur la montagne céleste, dans les lieux célestes. Quand Dieu devait parler à Moïse, il l'emmenait sur la montagne, quand il devait lui transmettre les tables de la loi. Quand Jésus avait un entretien avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, Jésus monta sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Quand Dieu veut nous parler à nous, ses enfants, nous pouvons être dans une maison, dans un appartement, eh bien, considérer que Dieu, le Saint-Esprit, veut nous saisir le cœur et l'esprit et veut nous transporter dans les hauteurs pour que nous puissions entendre. Parce que Dieu ne peut pas nous parler quand nous sommes dans la foule. Dans la foule, nous n'allons pas discerner sa voix. Nous allons être distraits. Dieu connaît notre nature. Il sait combien nous sommes distraits de nature. Nous sommes tête en l'air. Il y a de la folie chez nous. Eh ben Dieu, quelquefois, il nous prend. Le Saint-Esprit nous saisit. J'espère au milieu de nous cet après-midi, il y en a qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Ils ont été saisis et ils se sont sentis transportés dans les hauteurs. Et c'est dans les hauteurs que Dieu commence à nous parler. Tant que Jésus était dans la foule, il ne parlait pas. C'est quand il s'est retiré dans les hauteurs, il s'est mis assis et là, j'aurais aimé être à ce moment-là. Parce que quand Jésus se met en position assis, c'est autre chose. Quand il est debout, il est en action. Et vous verrez, en étant assis, ce qu'il véhicule, ce qui sort de sa bouche, c'est un enseignement. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et il délivrait, il manifestait la puissance de Dieu. Du moins, la puissance de Dieu se manifestait à travers lui. Mais il allait de lieu en lieu. Quand il marchait, c'était pour aller à la rencontre de la souffrance, de l'homme, de la femme, de celle qui avait perdu un enfant cher, de celui qui était aveugle, assis au bord du chemin, Bartimée. Il allait à la rencontre de la souffrance de l'homme. Mais là, en étant assis, il ne s'adresse plus à l'homme. En général, il s'adresse à qui ? À ses disciples. Et je veux que vous considériez cet après-midi que le Seigneur vous a convoqué ici pour vous parler. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je sais qu'il va me parler en premier, mais ensuite à vous. La Bible dit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Alors, je désire ardemment qu'il me parle, et il est en train de le faire en ce moment. Je le crois de tout mon cœur. Et pendant que je suis en train de vous parler, il est en train de m'arroser, parce que il est en train de vous arroser en retour. Amen. Et regardez la suite. Et après qu'il se fut assis, l'attraction s'opère. Et j'aimerais que cet après-midi, que vous n'ayez de yeux, de regard que pour lui. Tournez vos regards sur lui, fixez vos yeux sur Jésus. Alors vous me direz, mais monsieur, je ne le vois pas. Eh bien, c'est que tu n'es pas un chrétien. Lève-toi, va marcher au bois de Vincennes, va regarder les canards au lac de Vincennes, ça ira mieux. Je vous le dis. Mais l'enfant de Dieu que tu es là, tu as les yeux fixés sur Jésus. Et tu le vois, comment ? Avec les yeux de la foi. Tu le contemples, tu l'adores, tu l'élèves, tu l'exaltes. Il est digne d'être élevé. Et plus personne, là, aujourd'hui, dans ce lieu, n'a de l'importance à tes yeux. Parce que la Bible nous dit que là où deux ou trois sont rassemblés, réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je le crois, mon Seigneur, que tu es là. Je crois que tu n'as pas fait le déplacement en vain, mais tu es venu cet après-midi pour consoler, pour exhorter, pour édifier, pour donner une parole à quelqu'un qui est ici et qui dit « Mais Seigneur, je suis à bout !» Pour encourager l'enfant de Dieu qui se dit « Mais qu'est-ce que je fais encore là ? J'attends, mais Dieu ne me répond pas. » Mais ne t'inquiète pas, si la promesse tarde, elle viendra certainement, assurément. Et il dit ceci, mon juste, c'est-à-dire l'enfant de Dieu que tu es, tu dois vivre par la foi. La foi, c'est une ferme assurance et une démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Pour avoir une précision plus précise de ce que c'est que la définition de la foi. Eh bien, toi, enfant de Dieu, tu es là, tu es venu pour avoir les yeux fixés pour Jésus, sur Jésus, et pour être, on va dire, ébloui par lui, par sa gloire, émerveillé par lui. Trop souvent, nous nous sommes réunis et nous avons dit ce verset, là où deux ou trois sont, tu es au milieu. Oui, on l'a dit, mais au fil de la réunion, on s'est laissé distraire et on a détourné nos regards de celui qui est le plus important, d'ailleurs qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent. Et on l'a tourné sur un frère ou une sœur, ou sur quelque chose qui est extérieur à cette salle. C'est-à-dire à la famille, aux enfants, au repas du soir, à comment je vais faire pour entrer. Voilà comment on est. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Que quelques heures, 2 heures dans une journée sur 24 heures, c'est ce que tu confies à Dieu. Peut-être d'autres en confient un peu plus. Mais Dieu demande ton attention pendant 2 heures. C'est pas grand-chose. 2 heures, c'est rien. Dans une vie, quand tu fais le calcul, dans une année, combien de temps que tu confies à Dieu ? Par rapport à ce que tu confies à d'autres, à tes affaires, à tes soucis, à tes inquiétudes, tu confies peut-être plus de temps à ça, au lieu de te focaliser sur celui qui a la solution à tous tes problèmes. Mais il faut que tu fasses cet acte de foi. Jésus assis sur cette montagne, il y a une attraction qui s'opère. Il n'a pas convoqué ses disciples. Regardez bien. Ce sont eux, volontairement, délibérément, Si cet après-midi tu es venu parce que maman t'a dit de venir, rentre chez toi. Va te mettre sous ton Game Boy et va jouer à la maison. Par contre, si c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à venir ici, alors tu es au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu te parlera. Personne ne suit Jésus parce que par procuration ou par la foi des parents ou qui que ce soit. Tu suis Jésus parce que tu es un enfant de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit te pousse à venir. Le Saint-Esprit en toi fait une attraction et t'emmène là où Jésus est. Les disciples, personne ne leur a dit, même pas Jésus leur a dit, venez. Quelquefois, Jésus les a pris, les a emmenés un peu dans un lieu désert, parce qu'il y avait trop d'allées et venues là où ils étaient. Ils venaient juste de ressortir, de revenir d'une mission, de combien de jours. Ils étaient revenus, ils partageaient à Jésus combien l'Esprit, combien la parole de Jésus s'était accomplie à travers eux. Des miracles, des guérisons, Satan vaincu, Satan chassé des corps. Puissance de Dieu. Et Jésus leur a dit, hey, les enfants, venez. Venez prendre un peu de vacances. Retirez-nous un petit peu. Ils se sont retirés dans un lieu désert. Et même dans ce lieu désert, il y avait encore du travail. Alors, pour vous montrer que quand on suit Jésus, quand on a les yeux fixés sur lui, il y a tellement de choses que Dieu aurait aimé faire à travers nous, mais il ne nous trouve pas disponibles et encore moins disposés. Il nous trouve plus préoccupés à nos affaires, à des choses qui n'ont aucune valeur à ses yeux. Peut-être à vos yeux, oui, mais il est préférable de dire « Seigneur, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, je me suis occupé trop de mes propres affaires, mais je t'ai mis tout doucement de côté. Et tout doucement de côté, ça veut dire je me refroidissais. Et j'avais mis de côté, sans même me rendre compte, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui ? C'est Jésus. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Mon désir, mon travail, ma mission cet après-midi, c'est maintenir Jésus dans ma petitesse, de le maintenir au centre, pour que vous, en étant là, vous ayez les yeux fixés sur lui et sur sa parole. Vous me regardez, bien sûr, mais ne me voyez pas. Je vois Jésus en vous, voyez Jésus en moi. Comme ça, il n'y aura pas, on ne sera pas là à se frotter, à se passer la pommade mutuellement. Alors je continue. Jésus dit ceci. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis, regardez bien, il monta, il s'assoit, et là, il ouvrit la bouche. Et là, c'est un flot, c'est une vague, c'est des vagues successives. C'est un tsunami de bonheur, alléluia. C'est un tsunami d'amour qui déferle à travers la bouche de mon Seigneur Jésus-Christ. Et là, il donne à ses disciples un enseignement qui a traversé les siècles. Il dit, puis où ayant ouvert la bouche? Et quand Jésus a ouvert la bouche, qui parle à travers sa bouche? C'est Dieu. Et nous devons donner toute notre attention à ce que Dieu nous dit maintenant. Il dit ceci. Il les enseigna. Voilà l'enseignant en position repos, assis. Jésus assis commence à enseigner. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Alors moi j'ai réfléchi. Je me suis dit, il y a des personnes, des foyers qui vivent des drames, ils ont des enfants handicapés. Et est-ce que Jésus s'adresse à ces personnes mal formées, les pauvres d'esprit? Non. Derrière pauvre en esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y a rien de bon en lui ou en elle. La prétention, l'orgueil, le « moi, je », oui, je suis, tout cela est mis de côté. C'est-à-dire, tu viens devant Dieu, devant le maître. Il enseigne, c'est un enseignant. Il s'assoit,
et il enseigne ses disciples. Il ouvre la bouche, il amène un enseignement. Ça veut dire on écoute. On ne vient pas en disant « Ah oui, mais Seigneur, tu sais, moi je connais. Hein? Ah oui, moi je sais, ta parole, c'est comme des personnes qui parlent à Dieu quand ils prient, ils font des leçons, des études bibliques à Dieu. Ils expliquent à Dieu ce que Dieu connaît. Quand nous approchons de lui, l'Église nous le dit, chapitre 5, je crois. Il dit ceci, quand tu t'approches de Dieu, approche-toi pour écouter quoi ? L'enseignement. La Bible nous dit, celui qui écoute parlera toujours. Quand nous nous approchons de Dieu, venons devant lui dans un seul désir, c'est de dire, parle-moi. Je viens, mon Père, parle-moi, j'ai besoin que tu me parles et j'écoute. Voilà, parle-moi, ton serviteur et ta servante écoute. Eh bien, écoutez, quand nous nous approchons de Dieu quelquefois, nous sortons des paroles et des paroles et des paroles, mais béni soit Dieu qui ne tienne pas compte de ces paroles. Heureusement que nous avons un avocat, quelqu'un qui prend nos prières et avant de les présenter à Dieu, il les nettoie. Il fait le tri de ce qui est bon, de ce que nous avons demandé. On dit, Jésus doit dire, mais ma fille, elle est complètement à côté de la plaque. Mais malgré tout, je vais nettoyer et je vais présenter à mon Père quelque chose de parfait. Béni soit Dieu. Que Jésus prend nos prières. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu en tant que souverain sacrificateur. Et en tant qu'avocat, notre avocat. C'est lui qui prend le dossier, nos demandes, nos requêtes, nos supplications. En fait, il prend ce que nous lui demandons, ce que nous lui donnons, nous demandons à Dieu, il le prend et il le regarde, il dit, ça c'est bon, ça non, je vais faire autrement. Ça, un avocat, c'est ça. Il prend ta plainte et il voit comment il peut te défendre avec des mots justes et en emmenant ça devant le juge, le procureur, pour que tu sors blanchi. Eh bien, souvent, Jésus le fait, ça. Il prend nos prières, il les présente à Dieu de manière parfaite. Et Dieu dit, d'accord, je tiens compte, je mets ça là, je donne mon exaucement. Mais le temps que ça arrive jusqu'à vous, ça peut mettre des années, des mois, parce que Dieu éprouve notre patience et aussi notre persévérance et aussi notre attachement à lui. Amen. Alors, nous avons Jésus auprès du Père qui intercède en notre faveur. Et je reviens, il ouvrit la bouche. Voilà l'enseignant Jésus qui ouvre sa bouche et il va enseigner. Il dit, les pauvres en esprit, je reviens dessus. C'est celle et celui qui reconnaît sa petitesse, sa méconnaissance, son ignorance, ses incapacités, ses imperfections. La Bible nous dit que Dieu n'a pas choisi des hommes intelligents. Jésus a choisi des hommes manuels, pas des intellectuels. Il y en avait. Matthieu était médecin, Luc était médecin. Et il y en avait un qui comptait l'argent, un péager. Matthieu, merci frère. Voilà. Mais Jésus n'a pas choisi. Il n'y a pas beaucoup de sages au milieu de vous, dit l'Écriture. Mais la Bible nous dit que Jésus, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alors quand nous avons cet état d'esprit-là, on se reconnaît petit. On se reconnaît, on n'a pas, Seigneur, je viens, mais je te connais pas. Dieu dit, viens, écoute ce que je vais te dire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu, c'est pour eux. Vous voyez la porte que le Seigneur est en train de nous ouvrir? Il nous dit, quand tu comprendras que tu es pauvre, tu sais pas grand chose, si tu viens dans cet état d'esprit, dans l'humilité, on va employer ce terme, eh ben, écoute, je t'ouvre mon ciel. Parce que dans le ciel de Dieu, si Dieu devait faire entrer que des gens intelligents, on serait loin derrière. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages au milieu de nous. Je vous le dis. Et beaucoup de personnes, si c'était par les œuvres, sur la base de l'intellectuel, les connaissances intellectuelles, on serait peut-être, il y en aura quelques-uns au milieu de nous, mais on serait peut-être loin derrière. Et beaucoup nous devancerons. Mais béni soit Dieu. ce sont ceux et celles, quand ils se trouvent devant la croix, devant cette œuvre qui est folie pour le monde. Les Grecs demandent quoi ? La sagesse. Les Juifs ? Les miracles. Mais quand tu regardes à la croix, c'est un miracle. Un miracle de Dieu. Comment le Fils de Dieu, Dieu lui-même, accepte de se laisser malmener comme il a été malmené, cloué comme il a été cloué, fouetté, couronne d'épines comme il a subi tout ce qu'il a subi. C'est la folie. Et Dieu dit, la folie de Dieu est plus sage que le monde, que la sagesse du monde. Et Dieu a décidé de sauver l'humanité par cette œuvre. Et Dieu converge, amène tous les hommes, où ça ? À la croix. La croix, c'est la porte du ciel. C'est l'entrée pour aller au ciel. Tous les hommes, quels qu'ils soient, celui qui a fait des grandes études, celui qui n'est pas intelligent, enfin, qui a sa connaissance, Dieu lui dit, tu viens à la croix, que tu sois riche, pauvre, savant, ignorant, c'est à la croix qu'il faut que tu viennes. C'est là que tout commence pour toi. C'est là que Dieu remet ton compteur à zéro. Et c'est là que tu peux repartir en nouveauté de vie. Parce qu'à la croix, il y a deux choses que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce n'est pas de la prétention. Mais dans sa bonté, Dieu m'a aidé à le comprendre. Ce n'est pas fracassant. Mais la croix a deux faces. Il y a la face où Jésus était, mais il y a l'autre face derrière. Et cette autre face, c'est pour toi et moi. Jésus disait, tu veux être mon disciple ? Eh bien, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix et tu dois me suivre. Eh bien, il y a des personnes qui suivent Jésus et ils suivent Jésus sans la croix parce que la croix, c'est difficile à porter, c'est lourd. Parce que Simon de Cyrène, quand il revenait de la campagne, eh bien, Jésus portait la croix, les Romains l'ont forcé à prendre la croix. Lui, il a pu mesurer le poids de ces deux morceaux de bois. Il a mesuré Simon de Cyrène, parce que Jésus le portait en titubant. En plus, en amont, quelques heures avant, il avait pris des coups, il avait été affaibli terriblement, et il portait sa croix. Et tellement qu'il commençait à tituber, eh ben, les Romains ont dit, oh, Simon de Cyrène, tu reviens de la campagne, viens ici, prends la croix. Lui aussi, il était fatigué d'une journée de travail. Mais il fallait qu'il prend la mesure, un petit peu, peut-être un millième de seconde de choses de la souffrance de Christ. Il a porté la croix du Seigneur. Et c'était un peu, Jésus, l'humour, pas l'humour de Dieu, mais le message de Dieu derrière cette action. Dieu disait, tu vois, Christophe, toi aussi, comme Simon de Cyrène, tu dois porter ta croix. Et pour aller où, Seigneur ? Ben, tu vois la montagne qui est juste là ? Ah non, Seigneur, je ne veux pas mourir. Et beaucoup veulent pas porter leur croix parce qu'ils connaissent la fin. C'est comme celui qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis. Il sait qu'un jour, il doit passer sur la chaise électrique. Il connaît la fin de l'histoire. Eh ben, le chrétien, l'enfant de Dieu, digne de ce nom, né de nouveau, eh ben, comme son sauveur, comme son Seigneur, il va jusqu'au bout. Parce que c'est celui, celle qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Et je rajoute, c'est celle et celui qui acceptera de porter sa croix jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est que tu dois être crucifié. Tu dois mourir avec Christ, jour après jour. Tu dois accepter de mourir. Aujourd'hui, si hier tu as accepté de porter la croix, on va dire 2 heures, 2, 3 heures, aujourd'hui Dieu te demande de le porter, encore 3 heures. Et c'est 3 heures où ta vieille nature va être crucifiée, n'aura aucune force, aucune puissance. Et si nous l'acceptons cela, eh bien Dieu accomplira une œuvre merveilleuse. À la fin, le cœur rebelle qui n'accepte pas de mourir, parce qu'au fond de nous, on ne peut pas dire comme l'apôtre Paul a dit, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». Cet homme a dit cette phrase quand il est arrivé à un summum de la foi. Qui est déjà monté au ciel ? Qui est déjà descendu dans le séjour des morts ? Lui, Paul, il parle de lui à la troisième personne. Il dit, « Je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel. Il a vu des choses extraordinaires qu'il ne peut même pas répéter avec la parole. » Alors ça me fait rire des fois quand j'entends des gens qui disent « J'ai été au ciel, qu'est-ce que tu as vu ? Ah oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. » Quand tu vas au ciel, quand tu reviens, tes paroles sont peu nombreuses. Et tu trembles. Ta vie, c'est une vie, tu pleures tout le temps. Parce que tu as été foudroyé par l'amour de Dieu. Quand Dieu nous permet de rentrer dans le ciel, eh ben on revient de là, on est en pleurs, on pleure tout le temps. On comprend pas, mais les larmes coulent comme ça. Parce que c'est un amour qui est surnaturel. Et cet amour, quand cet amour nous saisit, cet amour nous brise, nous jette par terre. Nous dépouille en quelque sorte. Eh bien, Christ, pour nous, enfants de Dieu, Christ est notre vie. Je ne peux pas dire aujourd'hui, la mort m'est un gain. Je ne peux pas prononcer ça devant vous. Je vais peut-être le prononcer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, peut-être, si Dieu me laisse en vie. Ou sur ma canne, je pourrais dire, Christ est ma vie. Je le dirai avec force, parce que c'est ma vie, c'est vrai. La mort attends, mais un gain. Pourquoi? Parce que je dois passer par le goulot de la bouteille. Je dois y aller. Et je préfère y aller, traverser, aller dans ce monde-là, le monde de Dieu, que de rester dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Ou dans quelques mois, je ne suis pas prophète. Ou dans quelques années, pas si lointaine que ça. Vous verrez, ce n'est pas des masques que nous aurons, en plein été, nous aurons des combinaisons. Comme à l'hôpital, pour rentrer en réanimation, vous êtes obligé de vous habiller, comme si c'est pour éviter de transmettre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde que nous vivons, il y a des choses terribles qui arrivent, qui arrivent, mais ça arrive. Et ça sera ceux et celles qui pourront tenir face à ces choses. Ce ne sont pas ceux qui ont mis le psaume 23, l'Éternel est mon berger, ils le répètent par cœur, ni le psaume 91. Ce ne sont pas ceux qui l'ont placardé dans leur maison, dans les salons, si c'est pas ceux-là, mais ce sont ceux qui le vivront, qui l'ont placardé dans leur cœur. La parole de Dieu, c'est dans le cœur. Elle doit se plaquer sur les tables de notre cœur. Et c'est dans notre cœur, parce que Dieu disait, ce peuple, en parlant de son peuple, il m'honore des lèvres. Facilement, il répétait la loi, il citait les versets comme nous. Mais son cœur est éloigné de moi. Et Dieu ne veut pas un peuple qui s'adresse à lui avec la bouche, avec les lèvres. Dieu veut que ça vienne du cœur. La relation avec Dieu, c'est une relation de cœur. C'est pas une relation de tête, ni de la bouche. Et c'est ce que Dieu veut trouver chez nous. Cet après-midi, je poursuis. Ensuite, il dit, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront... » Combien cet après-midi, combien vous connaissez, combien d'hommes et de femmes sont affligés parce qu'il y a une situation, ils connaissent quelqu'un qui a perdu un être cher, un enfant, qui vit dans le drame, qui, à cause de la situation, bascule dans la dépression et sous antidépresseurs. Combien peut-être? Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Pour être consolé, il faut aller trouver Jésus. Il faut donner sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que Dieu, la Bible nous dit, c'est le Père de toute consolation. Comment peux-tu connaître la consolation? Tu vas mettre un pansement sur une tristesse, une déception, une blessure, le fait de perdre un être cher, tu vas recouvrir cela pendant des années. Mais la plaie restera toujours vive au fond. Et tu vivras avec. Et tu essaieras, dès qu'il y aura une situation, dès que tu vas faire un cauchemar, un rêve, tu vas rêver de la personne qui est partie, qui est mort. Et il viendra même te parler, mais ce sera pas ni lui ni elle. Tout de suite, ça va réveiller le souvenir. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau, son cœur, quand Dieu console son cœur, c'est ça le miracle. Dieu le console définitivement, totalement. Quand il repense à cet être cher, il ne repense pas en pleurant, mais il dit, mais béni sois-tu, Seigneur. Elle ou il se repose, elle ou il est heureux. Et si tu nous donnais la permission de leur parler, puisqu'on ne doit pas parler aux morts, Si on leur disait, hé, tu reviens, maman, papa, mon frère, ma sœur, tu reviens. Ils diraient, ah non, je reviens pas ici, moi. Je suis trop bien là où je suis. Et même, il te dira, laissez-moi tranquille. Il ne voudra pas revenir dans ce monde et se remettre dans un corps qui pourrait, après, le faire souffrir, je ne sais de quoi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Que Dieu console ton cœur, mon frère, ma sœur. Que Dieu console ton cœur, monsieur, madame, à une condition que cet après-midi, tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Tu lui dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Heureux, au verset 6, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous avez vu? Quelle promesse! Ensuite, au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De justice. Et combien de personnes, peut-être cet après-midi ici, ont connu, ont subi l'injustice, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui, dans leur vie, les ronge. Ils vivent avec cela. Et Jésus dit, vous avez vu quand il ouvre la bouche, c'est comme un arrosoir. Il arrose les petits cercles. L'arrosoir, c'est plein de petits trous qui va en progressant. Jésus arrose petit et aussi au large. Personne n'est lésé. Tout le monde repart avec quelque chose. Amen. Et il dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous avez remarqué, il dit ceux qui ont faim et soif. Je ne sais pas si un jour vous avez souffert de la faim et de la soif. Je me souviens d'une anecdote. Je suis parti à la montagne. J'aime partir à la montagne. J'aime me retirer à la montagne. Enfin, la montagne, c'est au bois de Vincennes. Hein. Non, mais sincèrement, des fois, je m'en vais. Je vais en savoir. Enfin, bref. Et quand je prends de la hauteur, et une fois, je suis parti, j'étais pressé d'y aller. Ah, je suis parti, j'ai pris de l'eau. Mais j'ai pris une toute petite bouteille d'eau. Vous savez, les 33 millilitres, centilitres. Là. Et j'ai, habituellement, je prends des barres de céréales. J'avais oublié tout ça parce que j'étais pressé de partir. Mais au bout de 3-4 heures de marche, j'ai eu une fringale, mon ami. Vous savez, j'ai cherché où est les myrtilles. J'étais comme un, c'est de bête sauvage. J'avais faim. Et ma petite bouteille d'eau était finie. Mais à la montagne, vous pouvez prendre dans des sources, mais ça vous donne mal au ventre après. Bon, bref. Et j'ai eu faim. J'ai eu soif. Et je me suis mis assis. Il n'y a pas trop d'arbres, mais je me suis mis assis. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai, quand on souffre de la faim, quand on souffre de la soif, Jésus, à la croix, il a prononcé 7 paroles. Et dans ces 7 paroles, il a dit, j'ai soif. Lui a connu ce que c'était d'avoir soif. Et je me suis dit, si lui a connu cela, il peut lui-même me désaltérer. Alors je ne peux pas aller trouver un monsieur, un voisin, qui que ça soit, c'est Jésus que je dois aller trouver pour qu'il désaltère ma soif. Eh bien, il a désaltéré mon âme. Eh bien, quand il dit « heureux ceux qui ont soif, qui ont faim de justice », il dit ceci, « car ils seront », dites-le. Vous avez vu ? La soif, la disette, il dit, la fin de la phrase du verset, il dit, rassasié. Pour être rassasié, ça veut dire que l'abondance. Et je crois que cet après-midi, tu ne repartiras pas d'ici sans en être rassasié dans ton âme. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque part dans ta vie des déserts ou peut-être des endroits qui n'ont pas encore été désaltérés, où l'eau de la parole de Dieu n'a pas encore pénétré, où le terrain là de ton cœur est encore sec. Mais cet après-midi, le Saint-Esprit veut y entrer et arroser ce terrain. Parce que tu ne peux pas vivre avec une vie chrétienne à peu près. C'est une vie, Jésus a dit, je te donne la vie, mais la vie en abondance. Jésus a dit, c'est pas seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. Avec Dieu, c'est l'abondance, c'est la richesse, C'est la prospérité. Pas comme certains prêchent pour soutirer de l'argent. C'est pas ce style de prospérité dont Jésus parle. Si tu as soif de justice, va trouver un avocat. Humainement parlant, il te défendra. Parce que Dieu les a mis là pour justement faire ce travail. Mais tu peux aller trouver l'avocat des avocats. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu peux aller le trouver là cet après-midi en disant « Seigneur, j'ai appris que cet après-midi, j'ai un avocat auprès de Dieu. Et cet avocat-là, il n'a jamais perdu. Tout dossier qui lui a été présenté, il les a défendus avec hardiesse, avec force. Alléluia. Quand il a présenté cela à Dieu, son Père, il a intercédé auprès de Dieu. Il a dit, mais oh Dieu, mon Père, cette femme, cet homme, fais-lui grâce. Et Dieu dit, oui, parce que tu intercèdes, je vais lui faire grâce. C'est comme cet ami, il dormait tranquillement, le boulanger. Il dormait déjà. Eh bien, un ami est venu. Il est venu toquer à sa porte. Il a dit, ami. Il se faisait tard. Le monsieur dormait déjà. Il dit, ami, prête-moi 3 pains. 3 pains. Prête-moi 3 pains. Et il a insisté. Le monsieur lui a dit, écoute, moi je dors déjà avec ma famille. En gros, ne me dérange pas. Mais cet homme, l'ami qui l'avait rendu visite cette nuit-là, il voulait le nourrir. Il n'a pas été chercher de la bière ni de l'alcool, mais du pain. La parole de Dieu est un pain qui nourrit notre âme. Il a été à la vraie source. Et il a dit à cet homme qui dormait déjà, « Ami, prête-moi 3 pains. » Et cet homme, parce qu'il a tellement insisté, il a importuné. Et Jésus, quand il intercède auprès de Dieu en notre faveur, je peux vous dire, votre dossier peut être compliqué. Ta vie peut être compliquée. Ta vie peut être une vie, je ne sais pas, mais complètement désordonnée. Mais quand Jésus prend ta vie, mais mon ami, il le présente à Dieu. Il dit, oh Dieu, tu vois, sa vie est complètement cabossée. Satan joue avec elle, avec lui. Mais je t'en supplie, bénis-le, bénis-la. Mon ami, ta vie change. Alléluia. Transformation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Parce que tu as été cherché, tu as tapé à la bonne porte. Jésus n'a jamais perdu un combat. Il a jamais, moi c'est un homme, son plaidoyer, ça n'existe pas. Parce que les hommes religieux ont envoyé des émissaires. Allez écouter cet homme, Jésus, quand il parle. Et venez nous redire ce qu'il raconte. Vous savez ce qu'ils ont dit quand ils sont revenus pour faire un compte-rendu? Ils ont dit, vous savez, cet homme-là, Jésus, jamais, le mot jamais, c'est-à-dire avant Jésus, ils n'avaient jamais entendu. Jamais homme a parlé comme cet homme. Jésus, quand il parle, comme là, il ouvrit la bouche, il enseigne. C'est quelque chose qui va vous suivre pendant 2, 3, même 1 mois, cette parole de Dieu. Parce que quand ça sort de sa bouche, ça a un effet dans notre âme, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Parce que la parole de Dieu, quand elle est envoyée dans une âme, dans un cœur, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'envoie. Et je crois que cet après-midi, il y a une parole de Dieu pour toi. Et tu le reçois en plein cœur, comme on dit en pleine face. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour briser ce que Satan, les liens par lesquels l'adversaire te tient. C'est pour te valoriser, c'est pour te mettre sur pied et pour que tu sois sur le roc qui est sa parole. Amen. Pour que tu puisses prendre appui sur la parole de Dieu. Oui, moi je ne prêche pas à Pâques. Parce que tous les jours, c'est Pâques dans ma vie. Je n'attends pas de manger des chocolats aujourd'hui. Parce que si j'ai envie de manger des chocolats, je vais à Franprix pour acheter des chocolats. Je n'attends pas aujourd'hui pour manger des Pâques ou chocolats. Tous les jours, c'est Pâques pour moi. Je n'attends pas aujourd'hui pour manger de l'agneau. J'arrête. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice, car ils seront rassasiés. La base du trône de Dieu, c'est la justice. Dieu est un Dieu juste. Tu as connu la justice. Si tu lui fais confiance, il te fera justice. Tu m'entends ? Et je veux que cette parole rentre dans ton cœur et te travaille par le Saint-Esprit. Si tu as connu l'injustice, que ça soit vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'un membre de la famille, au travail, je ne sais d'où, d'un mari ou je ne sais qui, eh bien, fais confiance à Dieu. Il te fera justice. Mais ne fais pas justice par toi-même. Ne te fais pas justice par toi-même. Laisse Dieu, parce que la Bible nous dit, Dieu dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». C'est lui qui te fera justice. Confie ton sort. Remets ton sort à l'Éternel. Et il agira. Remets-lui. Confie-lui. Place en lui ta confiance. Fais-lui confiance. Il est capable. Il n'a jamais perdu un dossier quand il défend. Jamais. Il a présenté le dossier de nos vies à chacun. Il a présenté l'humanité devant le Père. Parce que la Bible nous dit que Christ s'est offert à Dieu. Pas au monde, mais à Dieu avant. Et Dieu a utilisé le sacrifice de Jésus pour sauver les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait avec le sacrifice de Jésus. Il l'a utilisé non pas pour lui, il n'avait pas besoin de salut, mais pour nous, sa créature, qu'il aime, qu'il chérit plus que tout. Vous vous rendez compte? Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour des hommes pécheurs et des femmes comme nous, des gens bizarres. Ça, c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on sera dans cette enveloppe charnelle, on ne pourra pas mesurer ni sonder la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Il me reste encore combien de temps? Le temps est passé? Il faut que je dise amen et on termine. Il n'ose pas me dire oui, il fait ça. Je bénis Dieu pour l'autorité qu'il me donne. Mais pas une autorité de dictateur. Avec mes frères, c'est dans l'amour. Je les écoute, ils me conseillent. Ça va et ça vient, ça ventile. On échange. Et je reçois beaucoup d'eux, des conseils, parce que je suis à l'école de Dieu. Là, c'est l'instinct émotion, hein. Séquence émotion. Je finis. La base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Dieu a deux plateaux de balance. Et dans sa balance, il n'y a pas d'injustice. Il y a l'équité, c'est un Dieu qui est équitable. Il ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. La justice, il rend justice et il fait justice. Et Christ, notre Sauveur et Seigneur, son Fils unique, à porter notre culpabilité à la croix. Et Dieu, à travers Jésus, la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice. Vous voyez le mot justice ? Il est notre justice. Sanctification et rédemption. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Et je termine. Car ils seront rassasiés, heureux, voilà, pour arriver à celui-là, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je le relis avec vous, heureux, c'est Jésus qui a ouvert la bouche, hein, et il continue à parler, hein. Il dit, dans tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure, il dit heureux. En gros, ceux qui sont miséricordieux, moi, la miséricorde, ce n'est pas de la pitié. C'est un sentiment beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé, beaucoup plus profond. Et il y a un être qui nous a manifesté de la miséricorde, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, sans chercher à être équivalent à Dieu, Philippiens chapitre 2, il est dit ceci, qu'il s'est abaissé, qu'il s'est humilié lui-même pour prendre un corps semblable au nôtre et pour mourir sur le bois de la croix. Vous ne trouvez pas que c'est une forme de miséricorde de la part de Dieu, à travers Jésus-Christ ? La miséricorde, c'est quelque chose... Aujourd'hui, il y a un mot qui est à la mode, c'est la bienveillance. Ah, il est bienveillant, elle est bienveillante, et bienveillant, et bien... Mais il dit ça, mais la bienveillance, la miséricorde, ça vient du ciel. Si Dieu ne nous avait pas fait miséricorde, on serait perdus. C'est parce qu'il a eu pitié de nous, qui nous a fait miséricorde, qui fait que nous soyons là aujourd'hui. Et dans notre cœur, il n'y a pas de miséricorde, si ce n'est que la miséricorde que Dieu mettra en nous pour les uns et pour les autres. Et Dieu nous appelle à être miséricordieux. Parce que Jésus dit une parole, il dit, de la manière, ce que tu vas utiliser pour juger ou pour mesurer ton frère, ta sœur, il prendra cette même mesure pour te mesurer. Alors si tu mesures, si tu vois la paille qui est dans les yeux de ton frère et de ta sœur, et tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux, alors Dieu va utiliser quelque chose de à la hauteur que tu as jugé ton frère, c'est à la hauteur que tu seras jugé. Dieu nous appelle et t'appelle cet après-midi à être miséricordieux. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Heureux ceux qui ont, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Si tu ne fais pas miséricorde, Dieu ne te fera pas miséricorde. Est-ce que tu m'as bien compris ? Tu dis amen ? Je dis amen. Inclinons notre tête. C'est une vitamine C. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et cet après-midi, tu es rentré peut-être fatigué avec des questions, des « Seigneur, mais fais-moi miséricorde, fais-moi grâce, aie pitié, fais quelque chose. » Eh bien, tu repars avec le cœur, avec une réponse, avec une parole de Dieu. Tu rentreras avec ça dans ton cœur. Tu t'appuieras sur cette parole, tu la repasseras dans ton cœur et tu verras que la situation qui est compliquée, Dieu va emmener une solution. Il te fera justice. Il te fera miséricorde. Si cet après-midi tu dis « Seigneur, je décide de faire miséricorde à mon frère et à ma sœur. » Si dans ton cœur tu le dis, Dieu dit « D'accord, maintenant je mets en action ma miséricorde sur ta vie. » Parce que quand Dieu ne fait pas miséricorde, je peux vous dire, tu peux semer 100, des centaines et des milliers de fois, tu récolteras très peu. Parce qu'il y a comme une main de Dieu qui est sur ta vie et que c'est Dieu qui te bénit, c'est lui qui permet que tu aies ce que tu es. Mais quand il bloque les choses sur ta vie, c'est que quelque part il a un compte à régler avec toi. Il veut que tu ailles sur le chemin de la miséricorde cet après-midi. Il t'appelle à être miséricordieux, à faire miséricorde, et lui te fera miséricorde. Ne garde pas de rancune, ni d'amertume, ni aucune racine d'amertume dans ton cœur. Laisse Dieu te faire justice. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il va agir de manière surnaturelle et puissamment dans ta vie, mais pour aussi régler cette situation. Merci.